Donc c'est paracha Ein Zain, donc 77. Ça parle de la lutte de Yaakov avec l'ange, évidemment, comme vous voyez. Et le premier pasouk dit, en fait, on est au milieu de l'épisode, d'une certaine façon. Yaakov Avinu a partagé, il s'attend à une confrontation avec Esav. Il a partagé déjà ses biens, sa famille en deux camps. Et puis il reste seul. Bon, alors il y a cette histoire, il est allé chercher les Achim Ktanim, etc. On ne veut pas entrer là-dedans pour l'instant. Le pasouk dit, « Vaivater Yaakov levado » Yaakov est resté seul, veillé avec Ish Imo. Et un homme a lutté avec lui. Ça, c'est le pasouk. Donc, comme souvent, le Midrash, il va essayer d'élucider le pasouk à partir d'un autre texte. Ici, il utilise un texte de Bereshit. Il utilise Bereshit ou Mishle ou Teilim. Pardon, Dvarim, Mishle ou Teilim. Parce que Dvarim, c'est pas tout à fait la même chose que les autres livres de la Torah. En fait, il y a Hamisha Chumshe Torah, mais le cinquième, il n'a pas le même statut. Dvarim n'a pas le même statut que les autres. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui parle dans le cinquième. C'est pas Hachem qui parle par la bouche de Moshe. Moshe Rabbeinu, il est Navi, il est, etc. Tout ça, c'est clair. Mais ça n'a pas le même statut. C'est comme si on avait commencé déjà un petit peu à la fin de la Torah chez Birtav, de la Torah écrite. On a commencé à dire quelque chose qui va vers le Torah chez Baalpé, la Torah orale, puisque du coup, c'est un homme qui parle de sa propre initiative. Alors, il amène un pasouk, très surprenant, très presque audacieux en fait. Le pasouk dit « En kakel yeshurun ». Le pasouk dit « Il n'y a pas, littéralement, kakel et Yeshurun. » Alors, je n'ai pas traduit parce qu'il y a une négation, mais ensuite il y a deux mots qui sont difficiles. Yeshurun, c'est d'ailleurs, c'est un nom du clan Israël pour l'instant, on va le prendre comme ça. Yeshurun, c'est un des noms du peuple juif. Sur quoi il est construit, etc. Il a en commun avec Israël d'être construit sur Yud-Shin Resh. N'est-ce pas? C'est aussi, ça commence aussi par les trois mêmes lettres, c'est-à-dire Yachar. La droiture. Mais il y a un problème. Le grand problème, il est sur le deuxième mot. Le deuxième mot, il est composé de Kel, donc qui est un mot. Ce mot de El, en tant que tel, il existe pour désigner une divinité, qu'elle soit, que ce soit Hachem ou que ce soit l'Avdil, une divinité extérieure. El, c'était un nom commun, même de divinité aussi. Le El, comme Elohim, peut très bien être profane. Elohim, ça peut des fois vouloir dire le tribunal, etc. Donc, ou les puissants. Et si c'est qu'El, effectivement. Mais si on avait voulu dire il n'y a rien de comparable que, le comparatif que, oui, il n'y a rien de comparable comme la traduction en français le donne au Dieu de Yeshurun, alors ça ne devrait pas être écrit comme ça. Salut Yaakov.
Bonsoir.
Ça ne devrait pas être écrit comme ça. Ça devrait être écrit non pas avec K, mais que. Avec un cheval. Avec de points verticaux. À ce moment-là, ça voudrait bien dire que. Mais le fait que ce soit écrit avec un kamatz ici, K, okay, ça me bouleverse les choses. Ça change complètement les affaires. Ça ne peut pas vouloir dire il n'y a pas de Dieu que le Dieu comme comparable au Dieu de Yeshurun. Ou rien n'est comparable au Dieu de Yeshurun. Parce que la forme construite Dieu de Yeshurun, ce serait que, enfin, que pas K, mais que est Yeshurun. Et du coup, il va falloir le lire autrement. On est obligé de le lire autrement. Et c'est ce que dit Rav Brechia Beshem Rabbi Yuda, Rabbi Shimon, Rabbi Simon, il dit, il faut le lire « En kakel ». Il n'y a rien de comparable à quel. Mais, « ou mi kakel ». Mais qui est comparable ? Yeshurun. Alors c'est un peu compliqué comme formulation. Tu dis il n'y a pas que, il n'y a pas, il n'y a rien qui est comparable à, puis ensuite tu dis mais qui est-ce qui est comparable? Alors les commentateurs ils s'arrêtent sur le fait que entre ein, qui veut dire ne pas, il n'y a pas, et lo, qui est la, lo, l'autre forme de négation, lo ou al, avec un. Qu'on écrive le lamed aleph ou aleph lamed, ça ne change rien, de ce point de vue-là, que ein, c'est pas aussi négatif, aussi absolument, pas aussi absolu que l'eau. Ein, ça laisse justement une place. Ein, ça veut dire, en gros, il n'y a pas. Mais en fait, il y a. Qui c'est donc Yeshurun? Hanayim vamshubachim shebachem. Littéralement, les plus beaux. Et les plus dignes d'éloge parmi vous. On ne sait plus très bien si c'est Rabbi Racha qui parle. À qui il s'adresse, est-ce que c'est une traduction? Yeshurun, c'est par le, d'où il vient le parmi vous ici, on ne sait pas très bien. C'est ce qu'ils veulent dire dans le Midrash, je veux dire, ça ne veut pas dire que n'importe qui dans Yeshurun, n'importe quel juif est comparable à quel. Mais il y en a qui sont comparables. Ce qui est absolument énorme, n'est-ce pas? C'est énorme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En dehors de Yeshurun, personne n'est comparable à Kadosh Baruch Hu, si vous voulez. Dans quel domaine? Eh bien, on va voir dans la suite dans quel domaine ils sont comparables. Et donc, dans quel domaine rien n'est comparable à quel, sauf Yeshurun. Alors, lisons le premier paragraphe, là. Ata motse, tu trouves, כל מה שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות, לעתיד לבוא, tout ce qu'הקדוש ברוך הוא va faire dans le futur, הקדים ועשה על ידי הצדיקים בעולם הזה. Il l'a d'abord fait dans ce monde-ci par l'entremise des tzadikim. Alors, cette introduction, elle a l'air de présenter les choses en disant que, de toute manière, c'est Hachem qui agit. Il agit, il annonce qu'il va agir dans Olam Haba, dans les temps futurs, Et il l'a déjà fait dans ce monde. On a déjà vu souvent cette chose. Ça existe même quand nous disons la situation la plus courante, c'est Shabbat. Shabbat, tout le monde sait, on le chante, Shabbat c'est Me'ein Olam Haba. Bon, que vous disiez en termes d'avant-goût, ça va très bien. Ça a quelque chose à voir avec Olam Haba. C'est le Shabbat. Triat HaMetzim, la résurrection. Ça a quelque chose à voir avec le réveil chaque matin. Mais dans le Shabbat, ou dans le réveil, lors du réveil du matin, la halakha du Shabbat, la halakha du réveil, elle dit à l'homme, fais de ton Shabbat un Me'ein Olam Haba. Fais de ton réveil un Me'ein Triat HaMetzim. Bon, c'est nous qui allons faire. C'est nous qui avons la charge de faire. De faire du Shabbat. Comment je vais faire du Shabbat un Me'ein Olam Haba? Olam Haba, c'est caractérisé par deux choses. C'est le monde du salaire. Comme dit Messie Atécharim, on travaille dans ce monde-ci, dans Olam Hazeh, et le salaire, on le reçoit dans Olam Haba. C'est le monde du salaire. C'est un monde qui est entièrement du salaire. C'est un monde dans lequel on ne peut plus rien faire pour augmenter son salaire. D'accord ? Les carottes sont cuites dans Olam Hazeh. D'accord ? C'est Hayom dans Olam Hazeh la Asotam. Dans Olam Hazeh, les choses sont à faire et elles produisent un salaire qui, lui, est payé dans un monde qui ne sert qu'au salaire. Le monde, il n'est pas du tout, le Messie Adéchalem l'explique, le Olam Haba, il n'est pas du tout fait pour autre chose que pour le salaire. Et d'ailleurs, Olam Hazeh n'est pas fait du tout non plus pour le salaire. Le vrai salaire, Olam Hazeh, c'est pas adéquat. Le vrai salaire ne se reçoit que dans Olam Haba, et dans Olam Hazeh, il n'y a pas de salaire réellement, parce que le monde n'est pas adéquat. Et du coup, par contre, le Olam Haba, lui, il n'est pas du tout adéquat comme monde du travail, où on pourrait produire du salaire. Il n'y a plus, c'est fini. Puisqu'on peut, Olam Haba, c'est un monde dans lequel on ne peut plus rien faire. L'action de l'homme, par excellence, c'est ce qu'on appelle la melacha, le travail. Et plus exactement même, peut-être, melachet marchevet, un travail pensé. Un travail qui est complètement pensé, qui est fait de façon artisanale, qui est fait exactement selon les règles selon lesquelles on fait ce travail. Selon les règles, ça veut dire n'importe qui peut prendre un marteau et enfoncer un clou, d'accord ? Mais un artisan, il enfonce... L'artisan, il n'enfoncera pas le clou de la même manière, il manie pas du tout le marteau de la même manière. D'accord ? Nous qui ne sommes pas, enfin, moi qui ne suis pas artisan, je sais très bien que je ne sais pas planter un clou. C'est pas que j'y arriverai pas. Il va se planter ce clou. Bon, avec peut-être les effets secondaires. Mais il sera planté finalement. Mais de toute façon, je ne sais pas tenir le marteau comme un artisan le tient. Il tient trop fort, trop haut, trop bas, trop... Bon. De toute façon, c'est pas possible. On ne sait pas le faire. Et donc, pour faire de mon monde, pour faire du Shabbat, un Olam Haba, c'est-à-dire un monde du salaire, il faut qu'on s'interdise, il faut qu'on ne fasse aucun travail. Si on fait un travail, c'est déjà plus le monde, on n'a plus recréé le monde du salaire.
C'est de façon qui était déjà un peu pendant ce moment-là, le Olam Hazeh, de ne pas être dans la...
Oui, on n'est plus dans le monde, puisque je veux réaliser ça. Et d'un autre côté, donc ça c'est les Lota Hazeh du Shabbat. Le Shabbat c'est Zachor et Shamor, c'est-à-dire il y a une partie Shamor qui est l'ensemble des interdits du Shabbat, mais il y a un Zachor qui est le Kiddush, il y a des gens qui font le Kiddush dans la semaine aussi. Il y a le Kiddush, il y a le la Hadlakat HaNerot, etc. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle Oneg Shabbat, Kavod Shabbat, etc. C'est la partie positive, le Zachor, souviens-toi du Shabbat. Alors, comment est-ce que je fais pour me souvenir du Shabbat? Ben justement, Olam Haba, pardon, c'est le monde, non seulement c'est un monde dans lequel on ne peut plus travailler, mais c'est le monde du salaire. Et donc, qu'est-ce que c'est le salaire? C'est une jouissance. Et donc, d'où l'obligation de faire du Shabbat un jour de jouissance. C'est-à-dire de réserver pour le Shabbat ce qui fait plaisir. Que ça soit... Alors bien sûr, c'est les réjouissances de ce monde-ci, dans Olam Haba, ce ne sera pas ça. Mais on ne va pas nous donner ici les réjouissances de Olam Haba, on n'a aucune idée de ce que c'est. Donc, si vous voulez, le Shabbat, c'est moi qui en fais. C'est la halakha qui m'impose. C'est moi qui vais en faire un Olam Haba, si vous voulez. Le matin, quand vous vous réveillez, quand on se réveille, comme tout le monde, on peut dire, voilà, je me suis réveillé. C'est l'ordre du monde. On se couche, on s'endort, on dort, et puis ensuite on se réveille. Mais on peut aussi dire, non, je vais donner du sens à mon réveil. C'est ce que nous faisons. Nous, quand on se réveille, on dit Elokai, on s'adresse à notre Dieu, c'est-à-dire en fait quasiment à Neshama. Et puis je dis, Neshama, j'explique la Neshama que tu m'as donnée, je t'avais confiée, tu me la rends, elle est Tehora, etc. Ça, c'est, mais je transforme mon réveil en Triat HaMetim. C'est un retour de ma Neshama. Qu'est-ce que c'est Triat HaMetim? C'est bien que la Neshama va revenir en quelque sorte. Voilà. Ben. Mais c'est, là, encore une fois, c'est ma parole. C'est ma mitzvah de transformer la chose de telle sorte qu'elle soit Triat HaMetim. Donc je peux dire, Hachem a voulu nous faciliter, nous aider, il nous demande d'être ma'amin dans Olam Haba, d'être ma'amin dans Triat HaMetim. Comment je peux être ma'amin dans quelque chose, je ne sais même pas ce que c'est. Alors Hachem te dit, je vais te dire ce que c'est. Voilà, tu vas le faire toi-même. Tu peux même le faire toi-même. Tu fais Shabbat, c'est ma'amin Olam Haba. Tu dis Elokai, le matin, c'est Me'en Triat HaMetim. Tu transformes ton réveil en Triat HaMetim, en résurrection. Ici, on dit que Ata Motse, tu trouves que tout ce qu'Hachem va faire, n'est-ce pas, il l'a fait par le biais des tzadikim. Donc ce sont les hommes qui le font, mais on dit ici c'est que c'est Hachem qui l'a fait. Donc on a l'impression ici que les tzadikim sont seulement la façon d'agir d'Hachem dans le monde, dans ce monde-ci. Donc Hachem nous a familiarisés avec ces notions, avec tout ce qu'il va faire dans Olam Haba. Comment? En faisant faire les choses du Olam Haba, semble-t-il, par les hommes, mais c'est lui qui les fait. Ça, il y a un petit problème ici, parce que c'est lui qui les fait. Uigdim ve'asa, alidea tzadikim, mais c'est lui qui les a fait. Par exemple, Akadosh Baruch Hu mechaye hametim. Dans Olam Haba, pour accéder à Olam Haba, à un moment donné, il y aura un Triat HaMetim. Eh bien, en plus de ce que je vous ai dit de ce que nous faisons un Me'en Triat HaMetim, mais Eliyahu Hanavi a fait une vraie Triat HaMetim. Eliyahu mechaye hametim. Mais ici, c'est présenté comme... Maintenant, dans le texte, on a l'impression que c'est Eliyahu mechaye hametim. C'est lui qui mechaye hametim. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le texte a dit au départ, Akadosh Baruch Hu le fait à travers les tzadikim. On a un peu l'impression, Eliyahu et Mechaye Hametim, où est-ce qu'on voit que Eliyahu Hanavi et Mechaye Hametim? Il y a un pasouk dans Melachim, Aleph, qui dit Vaishma Hashem Bekol Eliyahu. Hashem a écouté la voix d'Eliyahu Hanavi. Vateshev Nefesh Hayeled Al Kirbo Vayechi. Hashem a écouté la voix d'Eliyahu Hanavi et l'enfant, Eliyahu et Elisha, ils ont tous les deux ressuscité les enfants. Il a ressuscité l'enfant. Le Nefesh, dit Pasuk, Nefesh Hayeled, l'âme de l'enfant est retournée en lui. Elle est retournée. C'est Triat Ametim. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a écouté la voix Kol Eliyahu, la voix d'Eliyahu Hanavi. Donc on pourrait, enfin, ça se présente comme si en fait c'est vraiment Eliyahu Hanavi qui l'a fait. Donc comme si en fait ici c'est on n'entend pas ici que Hachem a fait Triat Emetim par le biais d'Eliyahu dans ce verset-là. On entend qu'Eliyahu a fait Triat Emetim, comment ? Évidemment par la tfila, par la prière, par la demande. La prière, c'est une demande, oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, nous, ce que nous faisons, nous avons souvent l'impression que nous faisons les choses et que c'est nous qui les faisons dans la vie courante. Mais par exemple dans la Amida, dans la Shemoneh Esrei, dans la prière, on prie pour les besoins du monde. Dans toute la prière de la Amida, c'est l'homme est en charge, le Klal Yisrael est en charge, les hommes sont en charge de prier pour les besoins du monde. Nous disons, voilà, le monde il a besoin de ça, ça et ça et ça. Et évidemment, nous ne sommes pas capables de le faire. Nous ne pouvons pas, nous tout seuls, être bonnes Yerushalayim, on ne peut pas s'occuper de tout selon Atachonel la Damdat, que vous devez dire. On ne sait pas faire ça. Mais nous le demandons à Hachem. Nous sommes en charge de le faire, et notre façon de faire, nous, c'est de demander à Hachem. Et pour que cela apparaisse, d'une certaine manière, comme notre action, si on demande, si on supplie Hachem de le faire, alors ce n'est pas mon action. Ce que j'ai fait, moi j'ai supplié. Comment est-ce qu'on peut exprimer que c'est mon action ? Qu'est-ce qu'on va choisir ? Comment est-ce qu'on va faire pour que les choses apparaissent comme étant mon action ? Cette demande que je fais à Hachem. On a déjà parlé souvent. Qu'est-ce qui se passe ?
Ça paraît qu'on accomplit, ça
voulait dire. Non. C'est en fait, la tfila, elle est un impératif.
Ouais.
On donne des ordres. La Amida, elle est un impératif. Tka be shofar gadol. C'est pas yé ratson che titka be shofar gadol. C'est tka be shofar gadol. On donne des ordres à Hachem, si on peut se permettre. Pourquoi il faut le dire sous ce ton-là ? Parce que sinon, ça n'apparaît pas du tout comme étant venant de moi. Sinon, moi, je suis le suppliant. Et Hachem le fait. Mais j'y suis pour rien. Là. Tandis que si je donne un ordre, alors on ne fait pas toujours les choses par soi-même. On a des gens qui font le travail pour soi, on considère qu'on l'a fait si on a donné l'ordre à quelqu'un qui accepte de recevoir les ordres. Bon, alors nous on donne des ordres. Et Hachem accepte parce que c'est ça la mitzvah de Tfila qu'il nous a donné. Puisqu'il nous a donné une mitzvah de le faire, alors on se permet de le faire. Sinon, ce serait impensable, ce serait une chutzpah pas possible. Tu ne vas pas te mettre à donner des ordres à Hachem. Et c'est ça le paradoxe de la tfila, c'est qu'Hachem nous a mis en condition et en position, il nous a donné des responsabilités et il nous a donné les moyens de les assumer. Alors tu parles comme ça. Alors les Chachamim, ils étaient un peu gênés quand même par tous ces impératifs là. Alors la Gemara, elle dit oui, c'est un impératif, mais il faut le dire sur un ton suppliant. Ça c'est la schizo juive. Tu parles à l'impératif, mais tu prends un ton suppliant. C'est ça. Alors, le ton, il est suppliant. Mais en fait, la grammaire qui est utilisée, les formes qui sont utilisées, c'est l'impératif. Et donc, voilà, c'est nous qui faisons. Alors c'est un peu ambigu ici, parce que c'est écrit « Mefourash ». Hachem a écouté le col de Eliyahu Hanavi et il a renvoyé la neshama de l'enfant dans son corps. Donc on a l'impression, Hachem a écouté, il a écouté le col. Je ne crois pas que dans le col il y ait une connotation suppliante. Entendu la voix. Alors là, on peut dire, voilà, c'est Eliyahu HaNavi qui l'a fait. Mais néanmoins, l'introduction générale, sur laquelle je me suis un peu longuement arrêté, d'accord, c'est « Higdim ve'asa al-yede ha-tzadikim ». Hachem l'a fait avant de le faire dans Olam Haba. Il l'a préalablement fait dans Olam Hazé al-yede ha-tzadikim. Ensuite, une autre chose. Kadosh Baruch Hu Otser Geshamim. Kadosh Baruch Hu, littéralement, il arrête, il empêche les pluies de tomber. C'est une des clés qu'Hachem a gardées pour lui, c'est la clé des pluies. Et Hachem a. C'est lui qui gère les pluies. Ve Eliyahu Otser Geshamim. Mais Eliyahu Hanavi, lui, il est aussi Otser Geshamim. Bon, quand il a dit au roi, il lui a dit Imiya Shanim Ael Talumatar qui im le fi de Varay. Il a dit il n'y aura pas de pluie ni de rosée ces années, si ce n'est que je l'aurais ordonné. C'est Eliyahu Hanavi qui parle comme ça. Il parle au roi, d'accord.
C'est quoi le rapport avec Olam Haba?
Le
rapport avec Olam Haba?
C'est une très bonne question. Bonne question. Pourquoi ça s'appelle ça a à voir avec Hachem fait dans Olam Haba? Alors, il faut juste que tu attendes un petit peu. On essaiera de voir ce qu'il en est. Akadosh Baruch Hu mevarech et amuat. Akadosh Baruch Hu mevarech, littéralement il bénit le peu. Et Eliyahu mevarech et amuat. Et Eliyahu Hanavi aussi, il bénit le peu. Souvent dit, au nom du Nefesh HaChaim, que mevarech, lachon baruch, ça veut dire multiplier. Donc ce qu'Eliyahu et Elisha font, c'est qu'il multiplie le peu. C'est la fameuse histoire de, par exemple, c'est pas Eliyahu, mais l'histoire de la femme qui vient et qui se plaint qu'elle a des dettes, et les créanciers sont là et qu'ils veulent prendre son enfant en paiement de ses dettes. Ils vont le faire travailler, cet enfant. Et alors, vous savez bien, Eliyahu, c'est Elisha, Il lui a dit qu'est-ce que t'as chez toi, c'est Eliyahu HaNavi. Il lui a dit qu'est-ce que tu as chez toi. Il a dit un peu de farine, un peu d'huile. Et lui, il lui a dit, par exemple sur l'huile, il a dit rassemble auprès de toutes tes voisines tous les récipients possibles et commence à verser l'huile que tu as. D'accord ? Et il a mis une bracha et cette huile-là, elle a rempli tous les kélim, tous les ustensiles qu'il avait réussi à mobiliser chez ses voisines. Et quand il n'y avait plus de clé, ça s'est arrêté. Donc ce mouat, ce peu d'huile-là, a rempli... Alors, elle a pu les vendre, elle a payé ses dettes, etc. Quelqu'un devrait dire aux Grecs de faire la même chose. Ils ont de l'huile d'olive. Ça devrait marcher. Ça pourrait payer la dette grecque. Elisha, non pardon, Akadosh Baruch Hu poked akarot. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que les femmes stériles aient des enfants. Mais Elisha poked akarot. Et Elisha aussi, il a fait à la Shunamite, il a fait qu'elle ait des enfants. Akadosh Baruch Hu mevarech et amouat, et Elisha mevarech et amouat. C'est la même chose que je vous ai dit précédemment. Akadosh Baruch Hu mamtik et amar. Kadosh Baruch Hu adoucit l'amer, ce qui est amer,
oui.
En un seul mot. Oui. Il le rend doux, je ne sais pas. Oui. Ve Elisha mamtik et amar. Elisha a fait la même chose. Kadosh Baruch Hu mamtik et amar bemar. Kadosh Baruch Hu, il rend doux l'amer avec de l'amer. Traite le mal par le mal, si vous voulez. Il produit du doux à partir de l'amer, grâce à de l'amer. Alors là, le Midrash répète, Avrechia b'shem Rav Simon Amar, en kakel, ou mi kakel yeshun. Et une deuxième lecture, il dit, yeshun. Mais cette fois-ci, c'est pas le peuple. C'est Israël Sava. Israël Sava, ça veut dire le grand-père, c'est Yaakov Avinu. Pourquoi? Ma Kadosh Baruch Hu katuv bo v'nisgav Hashem levado af Yaakov v'yivater Yaakov levado. Il dit ici dans Kadosh Baruch Hu on dit v'nisgav Hashem levado, Hashem s'élèvera seul. Donc il y a cette mise en évidence de la solitude. Ce mot, le vado, il se retrouve chez Yaakov Avinu. C'est comme ça que le Midrash veut éclairer le vado de Yaakov avec ce passouk dans Dvarim de Mikakel Yeshurun. De deux manières. Une manière qui semble-t-il utilise le en kakel, donc qui n'explique pas le vado. La première partie, elle explique le kakel. En kakel, yeshurun. Et comme il y a une deuxième lecture, qui cette fois-ci ne parle pas du klal Israël en tant que tel, mais de Yaakov Avinu, et que celle-là, elle est construite sur le vado, ça éclaire le vado. Donc le Midrash éclaire le pasouk de Yaakov avec ce pasouk de la fin du Sefer Dvarim. Qu'est-ce qu'il veut le Midrash ici ? Est-ce que, évidemment, est-ce que les deux, il y a deux drachot, n'est-ce pas? Ce Rav Brechia, il fait deux drachot. Je ne sais pas si vous, s'ils ont corrigé ici. La deuxième bracha, elle est le Shem Rab Simon, alors que la première, elle est au nom du fils de Rab Simon. Brechia, au nom de Rabbi Yuda de Rab Simon. Et la deuxième bracha, elle est Rab Simon, Rab Brechia de Shem Rab Simon. Est-ce qu'une dracha qui est dite par le père, c'est-à-dire par la génération d'avant, est-ce qu'elle est plus profonde, est-ce qu'elle est plus fondamentale? Ça, on ne va pas répondre tout de suite. Est-ce qu'il y a une parenté entre les deux drachot? Pardon? Bechia, quel Bechia? Ah, il s'appelle Brechia. Barerta, ça veut dire.
Oui, bon.
Sur la Berach, oui, peut-être. Peut-être il s'est intéressé à ces questions-là parce que ça le touchait directement, c'est possible. Il semble que le vado, cette solitude qui est Nisgal Hashem le vado, c'est-à-dire, ici on veut dire la singularité d'Akadosh Baruch Hu, d'Hashem, donc il s'élève et c'est incomparable. Il est incomparable, il est seul, parce que la caractéristique d'Hashem c'est d'être le vado, c'est d'être seul. Une des raisons pour lesquelles Hachem dit l'auto veyota, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il y a un risque qu'on prenne Adam, s'il est seul, pour un dieu, pour le dieu d'en bas, et Hachem, puisqu'il est seul, il est le dieu d'en haut, et il y aurait donc deux divinités, une divinité d'en haut et une divinité d'en bas. Donc il faut pas que l'homme apparaisse comme étant seul. Pourquoi? Parce que ça pose problème, on pourrait le prendre pour un dieu, quoi, finalement. Et effectivement, ici on est en train de dire que c'est présenté comme ça, en tout cas, sauf l'introduction. Mais les cas qui sont présentés, là, on a un peu l'impression qu'on est en train de dire il y a des juifs qui sont dieux, quoi. Il y a des juifs, des gens qui appartiennent à Yeshurun, et qui sont qu'elles. Eux, ils sont comme qu'elles. Comme le Dieu. Ça veut dire, il y a des hommes qui apparaissent comme ayant des pouvoirs quasiment divins. C'est ce qui apparaît. Donc, vous voyez, Eliyahu Hanavi, Elisha. Pardon? Non, mais pour l'instant, on n'a pas. Lui, il ne parle pas du tout d'unique. La première drasha, elle ne parle pas d'unique. Ces hommes-là, ils n'apparaissent pas du tout comme étant. Comme bon, on a l'impression que, voilà, ils font ce que Dieu fait, si on peut parler comme ça.
Oui, mais c'est unique. C'est unique. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que. C'est toute la notion, même quand on parle de l'alamba et tout ça, c'est que même dans la notion au début de l'alamba, c'est l'évaluation de Dieu, de son unicité, qu'il est le vado.
Mais donc, encore une fois, la première dracha, elle ne parle pas de le vado. La première partie, elle ne parle que Mikakel et Yeshurun. Il ne s'est pas occupé du levado. C'est d'ailleurs assez curieux, parce que visiblement, cette dracha-là, puisque le Midrash, il veut éclairer, qu'est-ce qu'il veut éclairer? Il veut éclairer le levado. Or, toute la dracha ici, elle n'éclaire pas le levado, a priori. Donc, il faut dire, elle est préparatoire, c'est une dracha qui prépare à la deuxième partie de la dracha, qui elle va parler du levado. Et la deuxième partie de la dracha, elle parle de Israël Saba, ça veut dire, elle parle du grand-père Israël, si vous voulez, c'est-à-dire de Yaakov Avinu.
Ragout déclare le Tridat HaMetzid, là, que Eliyahu,
Iob
ou les enfants
d'Iob, vraiment, c'est... Non, il lui aura donné d'autres enfants, mais c'est Hachem qui a donné à Iob d'autres enfants.
Mais il n'y a plus Eliyahu alors qu'à...
Eliyahu et Elisha. Mais la Gemara, elle dit que c'était une histoire courante. Hein. Katan, le plus petit d'entre eux, les rabbanim, il savait être Mechaï Metim. Mechaï Metim, c'est rien du tout.
Ah, c'est pas ça, d'accord.
Rien du tout. Je ne peux pas vous dire, mais c'est rien du tout. Ça, c'est pas difficile. Pourquoi il y en a qui rigolent, mais... C'est pas difficile.
Est-ce que tu cours?
Alors, il y a justement ces Naïm ou Mshubachim Shebachem. Ceux qui sont les plus Naé. Naé, c'est ce qui est beau. Et Mshubach, c'est ce qui est digne d'éloge. Je ne traduis pas pourquoi. Je ne connais pas assez bien le français pour savoir pourquoi ils ont traduit aimable et exquis, là, mais bon. Je ne sais pas, je me merveille. Peut-être dans l'étymologie ça marche, mais a priori, Naïm, Mshubachim, c'est comme je vous dis. Donc il dit, il y a dans le clan Israël, dans Yeshurun, il y a des extraordinaires qui sont en fait les tzadikim. Allez dire hatzadikim. C'est-à-dire qu'en fait, les tzadikim, tout le travail des tzadikim, c'est en réalité, ici on t'a donné des exemples, parce que à la limite, bien sûr que Eliyahu et Elisha, qui sont les deux qui sont mentionnés ici essentiellement, sont Naïm et Meshubachim, mais ils ne sont pas tellement connus comme étant des tzadikim, ils sont connus parce qu'ils sont des Nevi'im, ils sont des prophètes. Bien sûr, ils sont sûrement aussi des tzadikim, mais quand on a voulu dire tzadik, on aurait pu dire d'autres gens. Alors, au départ, c'est marqué qu'Hachem fait les choses par les tzadikim, et on donne des exemples, et on donne que deux exemples, en fait. Enfin, que deux personnages, qui sont d'ailleurs presque le même, puisque Elisha, c'est le disciple d'Eliyahu Hanavi. D'accord ? Et ils font la même chose, en plus, en gros. En gros, ils font la même chose. Chaim et Tim, et Mevarech Mouat, c'est ça en gros. Lui en plus, Eliyahu, il a le problème des pluies. Ils adoucissent. Et lui, Elisha, il a le problème que lui, il adoucit. Ça, c'est les tzadikim. Et ils font ce que... C'est présenté comme s'ils faisaient ce qu'Hachem va faire dans Olam Haba. Alors... David avait posé une très bonne question. Il a posé la question sur qu'est-ce que ça a à voir avec... Remetim, on comprend ça a à voir. Mais Otser Gushamim, ça a à voir avec Olam Haba. Et Mamtik et Tamar, Bemar, ça a à voir avec Olam Haba. Adoucir la mer avec la mer, ça a à voir avec Olam Haba. En quoi est-ce que ça, ici, cette chose-là, et puis, Pokeda Akarot, c'est Olam Haba. C'est-à-dire que les femmes stériles vont avoir des enfants, c'est avoir avec Olam Haba, ça. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous dites ? On a essentiellement l'impression que il n'y a guère que la première partie, le Triatametim, qui a à voir avec Olam Haba. Le reste, bon, ils font des choses extraordinaires, comme un Kadosh Baruch Hu, mais ce ne sont pas des choses qui sont de l'ordre du Olam Haba.
Juste au début, vous avez dit quelque chose par rapport à la répartition entre Olam Haba basée sur le travail et la récompense, le salaire. Et juste, j'aimerais comprendre par rapport à. Il est les Shamaï, on dit que Shamaï, ce sera la Lacha pour le Olam Haba. Alors, ça veut dire qu'il y a des. Ça veut dire quoi si c'est plus un monde de récompense
C'est l'Ati de Lavo, c'est pas Olam Haba, c'est l'Ati de Lavo. Dans le futur, au temps messianique peut-être. Peut-être pas. Le temps messianique, c'est pas Olam Haba. C'est bon. La terminologie, elle n'est pas toujours très stable, cette question-là. Nous, qu'est-ce que vous dites là ? Oui, tout à fait. C'est ici, le travail, il ouvre des droits à un salaire. Le travail se fait impérativement ici. Et le salaire, il est payé dans Olam Haba.
Et c'est en fonction de la prise de conscience de Olam Haba, c'est-à-dire que...
Oui, c'est sûr que celui que Olam Haba dit, si tu dis que en Olam Haba, tu n'as pas Olam Haba. Celui qui est conférable à Olam Haba, il n'a pas Olam Haba.
Celui
qui ne croit pas à Olam Haba, il n'a pas Olam Haba. Puisque, en fait, Olam Haba, c'est la résultante d'un désir de Olam Haba. Si tu désires Olam Haba, alors tu peux l'avoir. Mais si tu ne désires pas Olam Haba, tu ne l'auras pas. Oui, tout à fait.
C'est...
Tout à fait. On n'a que ce qu'on a préparé. Tout à fait, c'est ça. Être dans la Mada quand même. Oui, bon, ça c'est effectivement la possibilité que les enfants éventuellement, les élèves peuvent éventuellement impacter mais ils sont dans ce monde-ci. Il n'y a que dans ce monde-ci qu'ils peuvent faire des choses.
Oui, mais vous avez dit tout à l'heure qu'une fois qu'on est à vous, il y a plus de possibilités.
Oui, soi-même on ne peut rien faire. Soi-même on ne peut absolument plus rien faire. On dit de Gaon qui pleurait sur son lit de mort, et on lui a dit, mais pourquoi tu pleures ? Vraiment, toi, si quelqu'un a rempli sa vie de Torah, c'est bien toi. Il a dit, je pleure pas à cause de ça, je pleure parce que je quitte un monde dans lequel, pour quelques sous, je peux faire une mitzvah qui m'ouvre des portes dans Olam Haba, et je vais dans un monde où pour tout l'or du monde, en quelque sorte, je ne pourrais pas bouger ma situation. Moi, je ne pourrais pas la bouger. Certains disent que les enfants, peut-être un certain jour, certains moments, ils ont peut-être la possibilité d'agir pour leurs ancêtres. Mais lui-même, il ne peut rien faire. Quand on est dans la Mabar, on ne peut rien faire.
Mon mec a dit à sa mère de la Tfila, il a torché la Mabar. Bon, donc cette dimension de la Mabar, c'est quand même une prise de conscience, c'est un vécu. Déjà ici.
Non mais on est tout à fait d'accord. Simplement, tout ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'il dit ici. Il dit, les tzadikim, ils l'ont fait. Les tzadikim, ils le font, c'est-à-dire Hachem, à travers les tzadikim, il a déjà fait ce qu'il va faire plus tard. Oui. Alors, dans ce qu'il va faire plus tard, pour Olam Haba, c'est essentiellement Triat HaMetim. D'accord ? C'est ça qui... Et bon, alors Eliyahu Hanavi, par Eliyahu Hanavi, par Elisha Hanavi, Kadosh Baruch Hu l'a fait.
Il fabrique du futur en faisant tout ça.
Pardon ?
Il fabrique du futur en faisant triadamétim, en faisant rendance féconde les acarotes et tout ça. C'est à chaque fois leur intervention va fabriquer un futur inédit qu'on n'attendait pas. De même que Yaakov était aussi en train de fabriquer le futur du clan Israël à ce moment-là, peu à peu, quoi.
Par exemple, quand il bloque, quand il y a un avis, il bloque les pluies.
Pour les pluies, je ne sais pas.
Le plus difficile, c'est de servir Shamim, en fait.
Oui, il bloque les pluies.
Oui, c'est
peut-être un peu. Parce que pour les autres, en fait, j'ai vu les Marzou, ils ramènent, mais c'est le seul qui ne ramène pas, c'est de servir Shamim. Pour les autres, ils ramènent le Tsugim en poquet des carottes. Il ramène René Akara, le Yadada. Et il ramène Julia Tidago, il y aura. Hachem, il va être poqué des carottes.
Bon, mais Hachem, il a été poqué de la carotte lui-même dans la Mazé. Donc, c'est pas spécifiquement. Là-bas, non, c'est même pas marqué. Hachem Paka de Stara, c'est pas par le biais des hommes. C'est pas par le biais des Tzadikim. Bah, évidemment, Abraham Avinu, il a vécu avec ça, mais c'est pas par le biais des tzadikim qui ont été poqués la carotte. Et même et si tu dis c'est les malachim, c'est les malachim, c'est pas les hommes.
On dit que si Hachem, le Midrash dit que si Hachem pour les Avon, il a fait en sorte qu'elles étaient à carotte parce qu'il voulait qu'elles prient.
Ok, mais c'est pas Hachem qui c'est pas les hommes qui sont poqués la carotte. Ici, c'est Elisha qui est poqué la carotte, ou ils sont poqués la carotte, mais Hachem, que ça veut dire
Quand Elisha est poqué la carotte, c'est qu'il prie, en fait. Pas...
Oui, mais parce qu'il annonce. Non, c'est le problème, c'est qu'il annonce. À Trevek et Ben, il lui dit, alors, je promets que l'année prochaine, tu auras un enfant.
C'est là qu'on dit la Tidlavo, c'est au Jean-Baptiste.
La Tidlavo, a priori, c'est... Pardon ?
Là, c'est marqué la Tidlavo, donc... On parle spécialement de la mama. Ça s'appelle juste la prise de conscience à travers. C'est que tout le monde va comprendre après tout ce qu'ils ont pu passer dans leur vie, toutes les situations extraordinaires, que ça vient d'Hachem, mais ça peut passer à point commun, et qu'ils l'ont déjà fait. C'est-à-dire qu'on peut aussi entrevoir à travers eux la main d'Hachem, chacun par contre.
Alors le problème, c'est comme ça. Si on dit, on parle effectivement que ce soit la mama ou la fille de la vôtre, tu as raison, mais premièrement, Hachem l'a fait dans ce monde-ci aussi. Donc, poquet de la carotte, il l'a fait. Et pourquoi on dit qu'il dit ou là, il dit. Et les chats, c'est pas avant la tille de la vôtre. Je veux dire, c'est puisque Hachem l'a fait dans ce monde-ci. Il l'a fait pour Sarah, on dit que Hachem Pakad, toutes les Imaot, et Hana, etc. Alors, on peut dire effectivement que. Otser Geshamim, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu a donné la clé, la fameuse clé des pluies à l'homme. Vous savez que normalement, cette clé de la pluie, il ne la donne pas. Mais je trouve qu'il l'a donné à un tzadik. Il l'a donné à Eliyahu Hanavi. Eliyahu, il avait la clé. Donc ça veut dire quelque part, alors c'est pas l'atid lavo, au sens de, c'est pas dans le futur que. Il ne va pas être Otser Gshamim, l'atid Lavo, Hachem. L'atid Lavo, pourquoi il serait Otser Gshamim? Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il a laissé à l'homme faire des choses qui sont spécifiquement les choses que lui va faire. Ici, l'atid Lavo, je pense que c'est une expression pour dire ce qui caractérise à quel, d'accord, ce qui est de l'ordre de ce qu'Hachem spécifiquement fait. C'est-à-dire, en fait, Triata Metim, c'est le prototype de ce que seul Hachem peut faire. Il a déjà fait faire par les hommes. Les hommes, en fait, dans le clan Israël, il y a des gens qui font ce qu'Hachem fait. Il faut le détacher, je crois, de la tuile de la voix. Oui, pardon ?
On ne pourrait pas dire qu'ils refont plutôt que.
Non, pas qu'ils refont. Ils ne font pas sur le modèle d'eux.
Non, mais je veux dire qu'ils refont parce que Hachem, en fait, c'est bien entendu, c'est pas dit dans le texte, mais quand tu dis que Hachem, iront les femmes
fécondes.
Les femmes stériles.
Non, fécondes.
Mais par exemple, le Seigneur dit qu'il rendra fertile les femmes stériles.
Oui, mais les femmes fertiles. Hachem les rend fertiles, les rend pas
soumis. C'est lui qui les a rendus stériles.
Oui, bon, mais ça, peu importe. C'est toujours Hachem, c'est lui qui fait la pluie, c'est lui qui fait la mer, c'est lui qui fait. C'est, tout est, de toute manière, tout est lui. Et le texte, il dit bien ça aussi. Il dit Hachem est magdil, mais il a fait les choses à l'idée de Tzadikim Ba'olam Hazé. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un conflit. Il y a Olam Hazé et puis ce qui n'est pas Olam Hazé. D'accord ? Donc, a priori, c'est pour ça qu'on traduit ce qui n'est pas Olam Hazé, ben c'est Olam Haba. Il n'y en a pas 36. Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est marqué l'Atid Lavo. Mais c'est vrai que Olam Haba, c'est un l'Atid Lavo, c'est un futur avenir. Mais en quoi est-ce que c'est important ici ? Je crois qu'il n'y a pas seulement le Inyan de la chronologie, c'est avant, après, je ne sais pas si c'est ça qui est absolument fondamental. Ce qui est fondamental, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, ce qui le caractérise, il l'a fait faire par des hommes. Par des hommes qui sont le clan Israël, qui sont Yeshurun. Et en vérité, il donne des exemples ici, mais d'un autre côté, la formulation, elle est tous les tzadikim, tout ce que font les tzadikim, n'est-ce pas, c'est agir divinement. Ils agissent divinement. Et en réalité, toute la notion de mitzvah, c'est agir divinement. Qu'est-ce que ça veut dire agir quand quelqu'un agit, parce qu'on lui a donné un certain pouvoir, il agit au nom de la loi. Pourquoi est-ce qu'il agit au nom de la loi? On lui a donné la possibilité d'agir au nom de la loi. Et du coup, parce qu'il agit au nom de la loi, alors sa parole, elle vaut plus que la mienne. Alors qu'il est peut-être un fief et menteur. Et moi je dis émettre, mais voilà, comme lui il agit au nom de la loi, alors c'est lui qu'on croit. A priori. Il agit au nom de la loi. Agir au nom de. Donc nous on agit, quand on agit dans le monde des mitzvot, on agit au nom de quoi? On agit au nom d'Hachem. Je vous ai dit, ce qui est c'est très important de bien avoir clair dans sa tête, que le mot mitzvah, d'accord, il se lit aussi bien mitzvah que metzavé et metzouvé. C'est-à-dire la mitzvah, ça se lit aussi bien celui qui est le metzavé, celui qui donne l'ordre, que celui qui est metzouvé, que celui qui le reçoit, et aussi ceux qui circulent de l'un vers l'autre. Donc la mitzvah, c'est un truc qui se fait avec Hachem, dans lequel l'homme et l'associé d'Hachem, dans la mitzvah, ils sont tous les deux au bout de... chacun est à un bout du processus, au niveau de l'ordre, et l'autre au niveau de l'action. C'est-à-dire, on agit divinement. Agir sur l'ordre d'Hachem, c'est agir divinement. Donc le tzadik, c'est celui qui agit entièrement dans le monde des mitzvot. Donc il agit divinement. Mais chacun d'entre nous agit divinement quand il fait une mitzvah. Simplement, ça dépend un peu de notre investissement dans la mitzvah. Quelqu'un fait la mitzvah comme ça en passant, c'est difficile de dire qu'il a agi divinement. C'est peut-être bien divin, mais il n'a pas agi. Il n'est pas là, quoi. Il n'est pas à ce qu'il fait, donc on va dire que lui, il agit divinement, s'il fait comme ça, chose en passant. Mais on agit tous divinement. Seulement les tzadikim, ils le font tout le temps. C'est ça le tzadik. Et alors, il y a des choses qui ne sont pas des mitzvot. Il n'y a aucune mitzvah d'être otzer gushamim. Il n'y a pas de mitzvah d'être mechayim etim. Il n'y a pas de mitzvah d'être mamtik et tamar bemar. Eux, ils font des choses qui ne sont pas des mitzvot. Mais comme ils sont des tzadikim, ils ont la possibilité, justement, de faire d'autres choses qui ne sont pas des mitzvot, des choses pour lesquelles ils prennent eux-mêmes l'initiative. Et c'est pour ça qu'on s'est marqué, Hachem a écouté la voix d'Eliyahu Hanavi. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il a de plus que monsieur tout le monde qui agit? Il a que lui, même quand il agit en dehors des mitzvot, c'est aussi comme il agit aussi divinement. J'ai pensé que ça faisait... Moi, ça me fait penser, quand, si vous regardez, par exemple, Nefesh HaChaim, vous verrez qu'il cite énormément Nefesh HaChaim. Mais même quand il ne cite pas, il cite. C'est-à-dire, tout est citation, en vérité. Même quand il n'est pas en train de citer explicitement. C'est toujours tellement imprégné de Torah, d'accord, que c'est toujours c'est comme une citation permanente. Mais ça n'a pas la lourdeur de la citation permanente. C'est comme ça, c'est une partie. Mon maître, c'était comme ça aussi. Tout, c'était tout le temps imprégné de Torah. Tout. Tout, tout. Absolument tout. C'est ça le tzaddik. Ce que je vous dis, on est tous capables d'agir divinement. Mais nous, on agit divinement ponctuellement. Quand je fais une mitzvah, j'agis divinement. Et quand je fais quelque chose qui n'est pas une mitzvah, je n'agis pas divinement parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Le tzaddik, lui, il est tellement imprégné de Torah, il est tellement proche d'Hachem, Hachem lui a donné la possibilité de faire des choses qui ne sont pas des mitzvot, et il fait des choses qui ont l'air un peu... qui sortent de l'ordinaire, et où on voit que ça a une dimension divine, c'est ça qu'on veut dire. Il agit divinement même dans le non prescrit. Nous n'agissons divinement que dans le prescrit. Ça veut dire quoi? Si vous voulez, le summum de celui qui est capable, être capable d'agir divinement même dans le non prescrit. C'est quoi? C'est en fait... écrit que Noach, il marchait avec Hachem. Noach, il allait avec Hachem. Comme ça, il faut se représenter. Noach, quand Hachem lui donnait la main, il marchait avec Hachem. D'Abraham Avinu, il est dit que lui, il marche devant Hachem. Ça veut dire quoi? Abraham Avinu, il invente. Abraham Avinu n'a pas reçu d'obligation. Il ne reçoit pas. Il n'agit pas seulement. Il agit divinement, même quand Hachem ne lui a rien dit. Ça veut dire qu'il est autonome. Il a atteint un degré d'autonomie, mais c'est une autonomie par laquelle son sa règle à lui, c'est la règle d'Hachem. Et ce n'est pas extraordinaire en réalité. Parce que nous avons tous ça en nous. Puisque nous sommes créés selon le plan d'Hachem, en vérité, depuis le début, en vérité, naturellement, on devrait agir conformément à notre loi intérieure, qui est la Torah. Moi, il y a un camarade qui s'appelle Yetzer Hara, qui vient et qui pose des problèmes, qui fait qu'on oublie, on a oublié, et on agit en dehors. Mais normalement, on devrait agir. Et on retrouve cette idée que, dans mon état normal, j'agis divinement, je pense divinement. C'est la fameuse histoire du Gaon. C'est ce qu'on rapporte toujours au nom du... que le Gaon, on lui a demandé un jour comment on doit faire quand on est face à un problème. Et on ne trouve pas la solution. Alors le Gaon a dit, il faut te mettre à l'ERNEN, il faut te mettre à étudier, puis au bout d'un certain temps, tu t'arrêtes, quand tu es vraiment dans le bain, et tu penses à ton problème, et la première idée qui te vient, c'est la bonne. Vous connaissez l'affaire, le Mashgiach de Meir, Rabbi Yerucham, il a dit, j'ai essayé, ça ne marche pas. Et après, il a fait chiot pour expliquer pourquoi ça ne marche pas chez lui. L'explication, elle est simple, mais je ne sais pas si elle est vraiment satisfaisante. Je ne sais pas que je veux dire autrement qu'à Birocham, mais disons, pour moi, elle pose problème. Il a dit, le Gaon, il est tellement imprégné de Torah que toute sa pensée, c'est Torah, et donc évidemment, quand il réfléchit à quelque chose, la solution qui lui vient, c'est la solution de la Torah. qu'est-ce qui peut se passer? Quelque chose l'a déconcentré. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben, il suffit de se reconcentrer, c'est-à-dire je me remets dans le limout, et puis à ce moment-là, je retrouve. Alors, Rabbi Yochanan a dit, ça c'est pour le gang, mais nous, on n'est pas dans cette situation-là. Donc nous, on peut étudier ce que tu veux, mais on est, comme on n'a pas atteint ce niveau-là, on ne va pas produire la bonne solution du premier coup, comme ça. C'est sûrement vrai en soi. Seulement, c'est un peu difficile. Je ne sais pas si le Gaon a dit ça, ou s'il a dit ce que lui faisait. Parce que le Gaon n'a certainement pas dit aux gens de faire une chose comme ça quand ils auraient un problème. Il n'est pas fou, il sait très bien qu'il est le Gaon et que les autres ne sont pas le Gaon. Il ne peut pas donner ce conseil-là aux gens quand il sait très très bien qu'on n'en est pas là. Le Gaon n'était pas complètement à côté de la plaque à penser qu'on était tous comme lui. Et par conséquent, ça ne peut pas être un conseil qu'il a donné. Peut-être que quelqu'un lui a demandé comment il faisait, lui, quand il avait, et il a dit, je fais comme ça. Ça, ça a un sens. Et que nous ne pouvons pas. L'idée, c'est on ne peut pas prendre modèle sur le Gaon. Parce qu'on n'est pas le Gaon ici. Tout n'est pas possible. On peut pas. Il y a des modèles que tu ne peux pas prendre. Parce que on est qualitativement différent. C'est même pas quantitatif, c'est qualitativement différent. Mais c'est la même idée. L'état normal du juif, en fait, devrait être suffisamment imprégné de Torah pour que dans tout ce qu'il fait, ce soit conforme à la Torah. Malheureusement, on n'est pas à ce niveau-là. Ce que dit le Midrash, il dit, il y a des juifs qui sont à ce niveau-là. Il y a des gens dans Yeshurun qui sont à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire, être à ce niveau-là? Ça veut dire être capable d'être seul. Je suis capable d'être seul, puisque je suis tellement imprégné que dans toutes les situations, même si je suis seul, je saurai ce qu'il faut faire. Et c'est ça qui est dit sur Yaakov Avin. Vaivata Yaakov levado. Yaakov est à un état, il est dans un état, à ce moment-là, une situation où il sait, sans que Hachem lui dise ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il doit faire. Il est capable. Et quand on dit Nisgar Hachem levado, c'est ça la caractéristique d'Hachem, c'est qu'il est levado, il a besoin de rien, il n'a pas besoin. Eh bien, l'homme peut atteindre un niveau où il n'a besoin de rien. Dans le clan d'Israël, on n'est pas. Dans le clan d'Israël, il y a comme Anaïm et Amshubachim Shemachem, les plus beaux, les plus dignes d'éloge parmi vous, eux, ils sont arrivés à ça. Pourquoi ce sont des Nevi'im? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi encore. Pourquoi ce sont des Nevi'im? Pourquoi c'est des prophètes? Pourquoi ça a à voir avec la prophétie? Visiblement. Mais en plus, je ne suis même pas sûr que ça a à voir avec la prophétie en général, mais parce que le fameux couple Eliyahu-Elisha, c'est un couple particulier. C'est d'abord un maître et un élève. Eliyahu Hanavi, il est quand même, il est parti, comme vous savez, au point qu'on a une question de savoir est-ce que la femme d'Eliyahu Hanavi, elle est permise ou pas. Une femme est permise seulement si elle a reçu un guet ou si le mari est mort. Eliyahu Hanavi, il n'est pas mort, il n'a pas donné de guet à sa femme. Donc on ne sait pas si la femme d'Eliyahu Hanavi est permise. Bon, si quelqu'un voudrait épouser la femme d'Eliyahu Hanavi, il ne peut pas. Elle n'a pas reçu de guet et il n'est pas mort. En tout cas, Eliyahu Hanavi, et son élève Elisha, c'est un truc à part. Mais je ne sais pas assez bien ce qu'ils sont réellement par rapport aux autres prophètes, par rapport aux autres tzadikim. Pourquoi c'est eux le modèle des tzadikim? Bon, moi, si on m'avait demandé, je ne sais pas que je ne les considère pas comme des tzadikim, mais a priori, je n'aurais pas dit qu'ils ne sont pas... Quand on pense tzadikim, je ne sais pas. À part, c'est la première fois dans le Midrash que je vois tzadikim, Eliyahu et Elisha. Je ne sais pas. Ça me surprend. On a dit que David Améler c'est un tzadik, on a dit Yosef a tzadik, on aurait Benyamin a tzadik. Il y a des choses qui sont des gens qui sont réputés tzadikim. Personne dit, on dit Eliyahu Hanavi ou Elisha Hanavi, pas ni Eliyahu Hatzadik ni Elisha Hatzadik. Ça prouve rien du tout, mais. Oui.
C'est le couple qui en fait le plus de miracles tout à l'heure.
Oui.
Tout est sauvé.
Oui. C'est-à-dire, c'est le couple dont on rapporte le plus de miracles. Bon, mais. Alors bon, c'est peut-être que c'est ça qu'on veut dire ici. Ici, on voit qu'est-ce que c'est leur capacité de s'investir pour les gens, d'annoncer à quelqu'un que tu auras un enfant. C'est-à-dire, je vois que tu vas avoir un enfant. Il est gonflé, Elisha. C'est aussi les gens, Eliyahu Hanavi, c'est quelqu'un qui se permet, la horatcha, c'est Eliyahu Hanavi. D'accord ? Eliyahu Hanavi, il apporte des corbanotes sur le Carmel. C'est assourd. On a le Bet Amigdash, c'est assourd. Mais c'est horatcha. Un avis, il a le droit de faire une horatcha. C'est-à-dire, on peut mettre la parenthèse pour un temps limité. Mais le Midrash est très dur hein, par rapport à Eliyahu. Hachem, il a dit à Eliyahu Hanavi, mais qu'est-ce que tu m'obliges maintenant à faire un Nes, quoi. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas le Nes? Tu as décidé que j'allais faire tomber le feu du ciel, là, et tu ne m'as rien demandé. Je ne t'ai jamais dit que j'allais le faire. Mais il a obéi au Shama, le Kol Eliyahu. Après, je me dis, il écoute le Kol Eliyahu. Qu'est-ce que ça veut dire, Hachem, écoute le Kol Eliyahu? Ça veut dire qu'il écoute, ça veut dire qu'Eliyahu Hanavi, il sait exactement ce qu'il faut. C'est ça que ça veut dire qu'Hachem écoute. Ça veut dire Eliyahu, quand il dit quelque chose, c'est ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il est imprégné, c'est un tzaddik. Il est imprégné de Torah. Et donc, même en dehors de ce qui est prescrit, en dehors des mitzvot, lui, il agit. Il agit divinement. Et justement, et ça se dit comment dans le langage de la Torah? Ça se dit levado. Être capable d'être levado. Être autonome. C'est énorme. Voilà, on sait. Quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui connaît parfaitement le Shulchan Aruch, voilà, il est autonome. Il sait comment se conduire dans toutes les situations. Y compris dans les situations où la mitzvah, c'est pas directement une mitzvah. Mais plus que ça, il sait aussi autre chose que le Shulchan Aruch. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le Shulchan Aruch. Et si vous connaissez le Shulchan Aruch, c'est très bien, mais en vérité, ce que je dis précédemment, ce n'est pas tout à fait vrai, vous n'êtes pas vraiment autonome. Parce qu'il y a des choses dans le Shulchan Aruch, plus directement, il y a des choses qui sont des paroles de Torah et qui ne sont pas dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il n'a pas tout écrit. Je vais raconter plusieurs fois l'histoire de Rabbi Israël Salanter avec l'histoire de la bourse, etc. D'accord, mais c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Mais dans l'Agmara, quand tu étudies l'Agmara, tu vois que c'est comme ça qu'il faut se conduire. Et même l'autre, son copain qui connaît le Shulchan Aruch aussi bien que lui, il dit, mais c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Alors il lui dit, Israël, il lui dit, mais peut-être c'est pas écrit dans le tien, mais dans le mien c'est écrit. C'est pas que dans sa marge à lui c'était écrit. Et que lui, quand il a étudié l'Agmara, il s'est demandé, cette Gemara-là, il s'est fait une expérience dans sa tête. Quelle pourrait bien être la situation dans laquelle je pourrais appliquer cette Gemara-là? Ça n'existe pas dans le Shulchan Aruch. Mais il l'a inventé lui-même, la situation. Et du coup, quand il est arrivé en situation, il savait ce qu'il fallait faire. C'est ça, être vraiment autonome. On sait sur chaque chose, c'est ce que la Torah elle, me demande. Et donc on agit en permanence divinement. Il me semble que c'est ça que le Midrash dit. Et l'introduction ici, c'était pour qu'on comprenne ce que c'est que le vado. Qu'est-ce que ça veut dire, oui, le vado? C'est ça le vado. Le vado, c'est être capable d'agir divinement là où la mitzvah n'a pas été donnée. Dans toutes les situations de la vie, là où il n'y a pas une mitzvah explicite. encore une fois, il n'y a pas de mitzvah d'être mechayimetim, pas de mitzvah d'être poked, à carotte, pas de mitzvah d'être mamtik, marbemar. Ça n'existe pas. Et on pourrait presque, dans certaines circonstances, dire que c'est un abus de pouvoir, mais un abus de. Il est Otser Gshamim. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire, il est Otser Gshamim ? Alors évidemment, si on cherche une preuve dans le Tulago, bien sûr, il ne s'agit pas de ça. Il y a un ami, il est Otser Gshamim, parce que les Gshamim, c'est, comme tout le monde le sait, dans le deuxième paragraphe du schéma, Gshamim Beitam. C'est quoi la bracha ? C'est la pluie en son temps. Chaque goutte au bon moment et au bon endroit. Ça, c'est la bracha. C'est comme ça que ça devrait être. Simplement, nous, on ne se conduit pas de telle sorte que ce soit comme ça. Alors, on peut avoir fait quelque chose de suffisamment grand pour qu'à Soukhot, on nous ait donné une allocation d'eau très importante. Mais ensuite, on ne se conduit pas bien et cette allocation d'eau, elle tombe, ça donne un tsunami. Ou bien alors, on ne s'est pas très bien conduit, mais on s'est rattrapé après, et le peu d'eau, que l'allocation était peu importante d'eau, mais elle tombe au bon moment. C'est-à-dire qu'à tout moment, il faut encore toujours se remettre en question. Eh bien, gérer cela, d'accord ? Puisque c'est une des prérogatives divines, ça, gérer la pluie. C'est ce qu'on dit, c'est une des clés qu'Hachem n'a pas donné. L'autre clé, c'est la naissance. C'est pas donné. Et les chats, il y a un avis. Voilà, tu auras un enfant. Dans un an, tu as un enfant. C'est-à-dire, c'est comme si ouais, Hachem n'a pas donné les clés. Mais ils les ont prises. Ils ont pris les clés. Parce que quand on dit Hachem n'a pas donné la clé, il n'a pas donné la clé dans le monde des mitzvot, en quelque sorte, dans le monde en te disant, si tu fais ça, tu as la clé, tu ne fais pas ça. Mais les gens qui sont imprégnés de Torah, hein, qui vivent dans la mitzvah, etc., eux, il n'y a pas, Hachem ne les a pas privés de la clé.
Oui, c'est ça,
je ne vois
pas justement ce que vous avez dit tout à l'heure dans la Gemara, à propos de la Shamaïm, et que quand on dit justement c'est comme la Pandam, c'est exactement ça que vous dites, puisque nous avons en fait, vous avez mis en évidence cette possibilité d'agir divinement, mais si elle n'est pas imprégnée de la Shamaïm, ça peut aussi donner.
Ah oui, monsieur, mais c'est plus. C'est comme si tu agissais pas. C'est que l'Adam, c'est plus Adam. S'il n'y a pas d'Yad Shamaï, il n'y a plus d'Adam.
Oui. Parce que cette capacité de pouvoir être soi-même autonome, on a vu par ailleurs que ça peut aussi, j'ai vécu un ouvrage, c'est Kajwa Kou qui propose donc, d'un évêque de faire avec
Yerovam et David Amelef.
Et David Amelef, et qui vous arroche, c'est-à-dire que ça revient à dire ce que vous avez amené tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois qu'on pense avoir l'autonomie, à ce moment-là, ça veut dire que moi, j'agis, je ne défends plus personne. Donc, s'il n'y a pas cette notion d'Irat Shamaï, à quelque niveau que ce soit, on n'est plus dans le.
Oui, tout Yerovam qu'il était, ça dévie, quoi.
Et pourtant, c'était Yerovam.
Oui. Voilà, on va rester là.
D'accord, merci.
Bonsoir.
Ciao.
Merci.